Ico DDS, producteur de l'album Deep Green Sound, volume 2, présente
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez un double accent, celui de vos origines marseillaises, mais aussi et surtout celui de la sincérité. Vous êtes un homme de théâtre qui, dans la vie, ne fait jamais de cinéma. Bonjour Vincent Fernandel.
Bonjour Jacques, ça va ?
Ah bah ça va très bien. Écoutez, vous êtes à l'affiche en tant qu'auteur d'une pièce au Théâtre des Mathurins, Anna attend l'amour, on va en parler tout à l'heure. Mais on va évoquer votre parcours, parcours discret néanmoins, parcours qui vous a mené aujourd'hui au théâtre, après différentes choses, et à travers des dates, car c'est le principe de l'émission. Et la première date que j'ai trouvée vous concernant, Vincent Fernandel, c'est le 7 mars 1991. Ça vous dit quelque chose? Écoutez cette chanson.
Près de nous, si pétant de merle, la rosée faisait des perles. Félicie.
Non, c'est pas ça.
Non.
Ça, c'est pas ça.
Je me reconnais encore.
Voilà, mais non, c'était
je
César, Fanny,
pas
Vincent
moi.
Et Fernand par Vincent Fernandel. Donc, vous vous souvenez de cette chanson?
Oui, alors c'est très marrant parce que la chanson qui est passée, c'est donc celle de mon grand-père,
ouais.
ce qui prouve bien que je suis indiffusable, quoi, que ce soit le hasard de la technique, hein, ou que... Ah, attendez, il y a des grands...
On ne l'avait pas, on n'a pas retrouvé sur... Elle est dans la classe.
C'est pas un grand drame.
Non,
hein, je pense que les gens pourront s'y faire et pourront s'en passer.
Parce qu'il faut savoir que ce jour-là, il y a une télévision à la classe, où vous arrivez... C'est une émission animée par Fabrice, il y a
oui.
Olivier Lejeune, il y a sur le pupitre, il y a Micheline Dax, Fabrice... Et puis à vous,
oui.
Tout petit, vous avez 10 ans, et vous arrivez avec Franck Fernandel, votre père,
oui.
Et lui présente un livre sur Fernandel, et vous chantez pour la première fois cette chanson, César, Fanny, Vincent et Fernand.
Et c'était donc dans l'émission La Classe.
Oui,
oui, oui, ben, je m'en rappelle très bien, j'accompagnais Franck, mon père, sur les plateaux, il la faisait souvent.
Oui.
Par contre, j'avais oublié que j'avais fait ma première prestation de chanteur, carrière courte hein, de chanteur, hein, et heureusement pour tout le monde, mais que c'était à cette date-là. Oui, c'était César, Fanny, Vincent et Fernand, c'était une chanson que mon père avait écrite avec son producteur historique, Gérard Tempesti,
oui.
Justement sur l'époque de Pagnol, César parce que Rému, Fanny parce que Demasis, Vincent parce que Vincent Scotto, et Fernand parce que Fernandel, mon grand-père.
Voilà.
Et je l'avais reprise quand j'étais petit, on avait fait un 45 tours à l'époque, hein, ça remonte, et il s'est d'ailleurs très très bien vendu, c'est-à-dire à 3-4 exemplaires dans le Val-de-Marne,
oui.
Une dizaine dans la Drôme, et je crois une vingtaine à Marseille, là on a fait de très gros scores.
Ouais, c'est un collecteur.
Absolument.
Je suppose que Vincent, votre prénom vient de Vincent Scotto, qui était lié à Fernandel.
Eh bien pas du tout mon cher Jacques, je vais vous apprendre quelque chose,
oui.
C'est qu'en fait c'est mon père qui avait un oncle qui s'appelait Vincent,
oui.
Qui faisait un peu de peinture, qui était un gentil garçon apparemment, et en fait il m'a appelé Vincent grâce à lui, mais... Étant du Midi et d'une famille plus que provençale, souvent on a tendance à penser que c'est Scotto. Mais par contre, j'aime beaucoup Vincent Scotto.
Oui, qui a fait 4000 chansons. Et alors, curieusement, beaucoup de chansons marseillaises, mais la plus célèbre, c'est une chanson, c'est J'ai deux amours,
oui.
Qu'il a écrite avec Géo Cogé en arrivant devant le Casino de Paris sous un bec de gaz parce qu'il avait trouvé l'inspiration sans imaginer que ce serait un succès mondial.
Exactement.
Alors, vous êtes à l'époque tout petit, vous avez des cheveux longs, vous avez coupé vos cheveux, je me souviendrai, vous aviez des cheveux très très longs à l'époque.
Oui, c'est vrai. J'avais les cheveux très longs parce que souvent les enfants, quand ils ont de beaux cheveux, et c'est vrai que j'ai quand même de la matière hein, dans ce domaine, quand ils ont de beaux cheveux, on leur laisse pousser et moi, on me les avait laissés pousser. Et puis, on a fini par me les couper parce que j'en avais marre qu'on me dise « Oh, la jolie petite fille !» Mais j'ai gardé, malgré tout, un côté très féminin.
Oui, n'exagérons rien. Alors, vous êtes dans une famille artistique, c'est comme ça. Ça change pas grand-chose à votre vie, Vincent Fernandel.
Ben, vous savez, Jacques, lorsqu'on est bombardé dès l'enfance et dès la naissance dans une famille où tout le monde fait ce métier, ça paraît d'une banalité absolue. C'est-à-dire que, pour commencer, je suis né alors que mon père, dans les années 80, marchait très fort. Il avait sorti un titre que vous connaissez bien, qui est L'amour interdit, voilà, qui a été un de ses plus grands succès en France. Mon grand-père était très diffusé à la télévision. Du côté aussi maternel, il y avait quelques artistes. Donc, si vous voulez... pour moi, c'était la vie normale. Et j'ajoute aussi que j'ai eu la chance d'avoir été éduqué dans une famille qui n'en a jamais fait tout un plat. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait peser sur moi une mission quelconque de reprendre je ne sais quel flambeau. Et c'est surtout qu'on m'a toujours dit « tu feras ce que tu voudras ». Ce n'était pas une obligation que de faire ce métier. Et ça dépend aussi beaucoup de l'éducation, l'équilibre par rapport à ça.
Oui, et moi je me souviens d'autant plus d'une soirée chez vous, parce que je travaillais à l'époque sur Radio Monte Carlo avec Franck Fernandel.
Vous pensez bien que je m'en souviens, Jacques.
Vous aviez 8 ans, et il y avait Andrex. Andrex qui était le meilleur ami de Fernandel, celui qui l'engageait régulièrement sur des films, parce qu'ils se connaissaient depuis l'enfance. Il y avait une fidélité familiale.
Ben, vous savez, quand ces grands noms du cinéma de cette époque avaient des amitiés ou avaient vraiment des connexions fortes, humaines avec les gens, Il y avait une fidélité qui durait au-delà de l'écran. Et d'ailleurs, c'était aussi le cas de mon père qui a toujours travaillé avec des gens qui étaient ses amis, non pas parce que c'était ses amis, mais aussi parce qu'ils étaient compétents, dont vous faisiez d'ailleurs partie.
J'ai la chance, oui.
Et c'est vrai que s'il y a une chose dont j'ai hérité, c'est justement aussi cette fidélité en amitié et en relation, et surtout dans le domaine du travail, où j'aime m'entourer de gens qui d'abord font preuve de compétences humaines avant de faire preuve de compétences artistiques. Après, je préfère avoir les deux parce que sinon, c'est moins intéressant. Mais il y a d'abord effectivement cet aspect de lien. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est le lien que ça crée.
Alors, le lien, vous l'avez choisi. Vous chantez comme une casserole. Vous n'êtes pas comédien.
Comme une batterie de casserole. Ouais. Maintenant, on peut y aller, hein, tu sais.
Ouais. Et en revanche, l'audiovisuel vous intéresse. Vous avez fait des études d'audiovisuel.
Absolument, absolument. J'ai fait 3 ans d'études audiovisuelles qui ne m'ont pas servi à grand-chose. Simplement, non, parce que vous savez, alors moi, vous savez, j'ai une école de théâtre hein, où
on
chante,
tout à l'heure,
où des acteurs. Donc, je suis bien placé pour savoir que de nombreuses écoles privées à Paris sont ce que j'appelle des pièges à provinciaux. Et qu'on s'appelle Fernanda Loupin, on vient quand même de sa province, du Midi, etc. Donc, on fait une école, on fait des petits boulots pour la payer quand même parce qu'on a le sens des valeurs. L'école coûte très cher et on sort au bout de 3 ans. On se dit, à part d'avoir gratté du papier, d'avoir tripoté un peu 2-3 caméras, j'ai pas appris concrètement grand chose. Donc, après, j'ai envie de dire que c'est le travail et la passion qui font qu'on se bouge un petit peu plus pour apprendre sur le terrain ce que l'école parfois. Je dis bien parfois, pas tout le temps, n'apprend pas en pratique.
Exactement, et justement, cette école sur le terrain, on va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 22 septembre 2008. A tout de suite sur Sud Radio avec Vincent Fernandel.
Écho DDS, producteur de l'album Deep Green Sound, volume 2, présente
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vincent Fernandel. Une première pièce dont vous êtes l'auteur, Anna attend l'amour au Théâtre des Mathurins.
Je précise que je suis le co-auteur, Jacques.
Oui, mais voilà. On va en parler
tout à l'heure. Par désir de rendre à César, notamment à Elisa Ollier, qui est la comédienne, ce qui est à Elisa
voilà.
Ollier.
C'est ce qu'on appelle la parité.
Exactement.
On parlera tout à l'heure. Pour l'instant, on va revenir à une date importante pour vous, Vincent Fernandel. C'est le 22 septembre 2008. C'est la première d'une émission qui s'appelle E-News.
Ah oui.
Alors ça,
première, c'était le 22 septembre 2008.
Voilà. Donc, ce sont vos débuts d'animateur sur une chaîne américaine, curieusement, Vincent Fernandel.
Oui, mais d'ailleurs, j'ai le physique et l'accent américain, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs.
Exactement. Ouais.
Ils ont pris celui qui était le moins raccord avec l'image, quoi, tu vois.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment êtes-vous arrivé là-dedans ?
Au tout départ, moi, j'ai commencé la télévision quand j'avais 20 ans, tout pile, sur Match TV,
oui.
Avec Frédéric Lopez. Dans une émission qui s'appelait J'y étais, qui était enregistrée au Virgin Megastore à Paris d'ailleurs. Le public s'en foutait complètement, mais nous on se régalait. Et j'ai fait ça pendant une année où j'étais en fait, je partais sur les routes de France pour suivre des artistes, des concours de Miss France, de beauté, des trucs improbables dont j'ai d'ailleurs parfois plus de souvenirs, mais d'autres excellents.
Mais Match TV, il faut le savoir, était une chaîne qui avait été lancée par Lagardère, persuadée que les chaînes de la TNT allaient exploser. Ils ont pris un bouillon pas possible.
Ils ont pris un gros bouillon parce que je pense qu'ils se sont fait un peu trop confiance. C'est-à-dire que Match TV, la très bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on était très gâtés et ils étaient très généreux sur tout, mais sans doute trop pour tenir longtemps.
Voilà, donc ça n'a pas tenu et vous êtes retrouvé alors comment sur cette chaîne américaine ?
Eh bien, je suis arrivé sur E-Entertainment d'une manière en fait très classique. J'étais à un moment donné un peu en dèche de boulot, ce qui arrive à tout le monde, hein, et à moi inclus. Et puis, j'avais ma fiancée de l'époque, je me rappelle, qui m'a dit « Tiens, il cherche un animateur, un co-animateur sur E-Entertainment ». Je ne savais pas ce que c'était, moi la télé, je la regarde assez peu. Je me suis dit « C'est une espèce de chaîne à robinet à sujet américain ». Bon, et j'ai passé en fait l'audition, mais en me disant « Je ne l'aurai jamais, et puis je n'ai pas le physique du gendre idéal américain ». Et finalement, ils m'ont pris. J'ai fait de la co-animation sur cette émission avec Sandrine Quétier pendant une année. Et ensuite, il y a eu un plan social de Los Angeles.
Oui.
Mais ils ont voulu quand même me garder. Hein. On était une toute petite équipe. Donc moi, je suis passé de chroniqueur à journaliste, chroniqueur, rédacteur en chef, présentateur. Et ce qui était très rigolo, c'est qu'on avait une correspondante française aux États-Unis. Mais souvent, j'avais le patron américain qui ne parlait pas un mot de français et qui disait « Vous faites des sujets formidables, c'est très drôle, je me régale. » Sauf qu'il ne parlait pas un mot de français, donc je ne sais pas. Ça devait être ma tête qui devait bien lui revenir ou il devait se dire « Tiens, c'est sympa. » Mais ouais. J'ai fait ça pendant 2 ans. En tout, j'ai dû faire entre Match TV, E-News et aussi M6 pour qui j'ai travaillé sur des sujets importants pour des bonus DVD, cinéma patrimonial italien, français, enfin des gros trucs. Ce qui m'a permis d'être un des derniers à rencontrer et interviewer Dino Risi. Hein, cinéaste italien, j'ai dû faire, je pense, à peu près 400-450 sujets cinéma.
Voilà. Oui, des sujets cinéma avec des interviews de personnalités à chaque fois, en français et en anglais.
En français, en anglais et en italien aussi. Je me débrouille pas trop mal.
Alors, ça consistait en quoi ? Ça consistait à aller quelque part, les retrouver dans un lieu précis où ils venaient vers vous. Ils ne vous connaissaient pas, bien sûr.
Naturellement. Mais moi, il y en a certains que je ne connaissais pas non plus. Oui. Parce que quand à la télé, on vous dit, vous allez interviewer un tel que vous n'avez jamais vu parce que c'est l'idole des 12-20 ans et que vous en avez déjà 27-28, des fois, il faut un petit peu bûcher. Mais j'ai eu la chance d'aller un petit peu partout en Europe, justement. Bonjour.
Mais vous êtes... André Bercoff passe dans le studio. Bonjour. André Bercoff passe dans le studio, je crois qu'il oublie quelque chose.
Il y a des vedettes ici qui passent à l'improviste, c'est formidable. On attend Dalida d'ailleurs dans 5 minutes. Et je ne sais plus ce que je disais, enfin bref,
Non, vous avez dû effectivement interviewer des gens que vous ne connaissiez pas forcément, mais vous étiez dans la tradition de ce qu'on appelait le soiriste. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 30, il n'y avait pas la télé, il y avait les journaux. Oui. Le soiriste s'habillait en smoking, il passait à la caisse du journal prendre un louis d'or pour sortir dans Paris, et il allait interviewer les personnalités de l'époque, comme vous l'avez fait aussi.
Ça, Jacques, vous me l'apprenez, voyez-vous. Voilà. Je ne connaissais pas le mot soiriste et je ne savais pas que c'était cette tradition-là. Ça me convient. Oui, j'étais un peu un soiriste, ça. Mais parfois, les soirées étaient très, très, très longues.
Alors, vous avez quand même rencontré des gens fabuleux. Oui. C'est-à-dire toutes les grandes comédies américaines. Il y en a une, il y a eu des problèmes, c'est Jennifer Aniston.
Mais comment est-ce que vous savez ça ? Mais c'est incroyable, ça.
Moi, je suis un fan absolu de Jennifer Aniston.
Écoutez, Jennifer Aniston, je pense que... Enfin, il y avait un gros souci. J'ai plus eu des soucis avec les... Alors, je vais dire ça autrement, parce que Jennifer Aniston, elle était juste très mal lunée ce jour-là. Et c'est vrai que de la part des Américains, qui sont très communicants et très sympas, on s'attend à toujours du sourire, la banane, etc. Mais ils ont le droit aussi d'être un petit peu mal lunés. Mais j'élargirai un petit peu pour rebondir sur votre propos. C'est qu'en temps d'interview entre Italiens, Américains et Français, chez les Américains, j'ai eu quand même des grosses pointures en face de moi, en plus que j'adorais, donc ça fait toujours plaisir. Mais quand vous voyez, par exemple, je prends Andy Garcia que j'avais rencontré à Deauville, que vous voyez de très loin, vous êtes avec votre caméra, votre journaliste, enfin votre caméraman avec votre micro, et vous voyez de très loin un type arriver en costume blanc avec le Havane aux lèvres et le petit foulard qui arrive lentement, vous dites « c'est Andy Garcia qui arrive décontracté avec beaucoup de classe ». Qui dit bonjour, très poliment, qui parle avec une modestie extraordinaire, avec des propos très intelligents, et que quelques jours après, vous rentrez à Paris et que vous faites partie d'une interview, d'un press junket, comme on appelle ça. Hein,
je comprends pas l'anglais, là.
Ouais, c'est pas grave. C'est une interview organisée, si vous voulez, mon cher Jacques. Et que vous vous retrouvez face à un acteur français qui est beaucoup plus grand qu'Andy Garcia en taille, mais beaucoup plus petit en renommée ainsi qu'en modestie, et qui parle de lui comme si c'était le maître du monde, on se dit que quand même, à force de renouveler ce genre d'expérience avec les acteurs français, il y a quand même une immodestie qui est assez galopante. Même s'il y a des acteurs français que j'ai adorés, notamment François Cluzet, qui, je pense, est celui qui, en toutes ces interviews que j'ai pu mener, m'a parlé d'une manière extrêmement intelligente du jeu de l'acteur et qui a été, je crois, celui que j'ai pris le plus de plaisir à interviewer en acteur français.
Alors, il y a aussi une particularité qui n'est pas d'actualité toujours aujourd'hui, c'est la bienveillance. Vous n'avez jamais trahi les propos dans les interviews, Vincent Fernandel.
Non, jamais, parce que je trouve totalement dégoûtant et absolument nul, pour employer un mot plus commun, d'aller vers une célébrité ou même vers quelqu'un qui n'est pas célèbre et de faire sa voix, de faire sa parole, de lui donner droit de tribune et ensuite d'assortir ça un petit peu comme ça nous arrange. Car je ne vous l'apprends pas à vous, vous êtes journaliste depuis maintenant au moins je ne sais pas combien d'années,
on ne compte plus. Oui.
Mais à la base, un journaliste, ce que j'étais, n'est pas là pour donner une opinion ou pour fracasser quelqu'un ni même pour l'encenser, il est là pour être le lien entre une personne, célèbre ou pas, et le public. Par conséquent, un journaliste n'est pas forcément un critique et encore moins un polémiste. Or, aujourd'hui, la frontière entre journaliste, critique et polémiste, elle est d'un vague absolu. Mais moi, j'ai toujours fait mon métier de journaliste en partant du principe que lorsqu'on me disait quelque chose, mon travail était de le retranscrire d'une manière fidèle et non pas de faire ensuite ma propre sauce avec des ingrédients dont on aurait modifié l'ordre ou la saveur. C'est pour ça que le journalisme, c'est d'abord et avant tout une neutralité qui ne veut pas dire qu'on n'a pas une idée claire et qu'on ne sait pas ce qu'on raconte sur la personne. Mais aujourd'hui, un mot en valant un autre, hein ?
Voilà. Il y a une star qui n'en vaut pas une autre, et ça, je crois que c'est votre maître à penser en cinéma. On écoute sa voix, Vincent Fernandel.
Ça veut dire qu'impossible n'est pas impossible. Je veux dire qu'avec du travail, avec la volonté, avec la persistance.
Ça, je crois que vous avez une passion. On a reçu d'ailleurs Costa Gavras pour ses mémoires voici quelques mois dans les Clés d'une vie. Vous avez une passion absolue, Vincent Fernandel, pour Costa Gavras.
J'aime beaucoup. Il fait partie de ces cinéastes que j'aime beaucoup. Il y en aurait des tas d'autres à citer. Alors, il n'est pas français, mais il est fortement francophone. Hein. Je pourrais citer Claude Sauté, Alain Corneau, Labro, quand il faisait de très beaux films, ou Claude Miller, enfin. Mais Costa Gavras m'avait marqué parce que je l'avais interviewé pour un film qui s'appelait Eden à l'Ouest, avec Roberto Scarmaccio, si je n'écorche pas son nom, j'espère pas, qui était en fait un film où le personnage, de bout en bout, ne disait rien. Ou pas grand-chose. Une espèce de néo-samouraï melvillien dans une intrigue qui n'avait strictement rien à voir avec celle de Melville, hein, du samouraï. Mais j'avais été épaté par la force qu'avait Costa Gavras à continuer à faire du cinéma. Car le cinéma, qu'on le veuille ou non, même si aujourd'hui on a beaucoup de films bavards qui parlent pour ne rien dire, c'est quand même d'abord la prédominance, la prégnance de l'image qui doit primer justement sur tout le reste. Et Costa Gavras, ça fait partie pour moi de ces grands qui sont encore les derniers à écrire avec de l'image et à savoir inscrire un acteur dans l'essence même de ce qu'il doit faire. Et j'avais adoré interviewer cet homme-là.
Et d'ailleurs, il sort un nouveau film dans quelques jours, Adult in the Room, et il a appris aussi quelques semaines par un journal sa mort. Donc il a immédiatement démenti et en espérant qu'au contraire, ça lui donne une plus longue vie, ce qu'on espère. Alors, le cinéma, justement, vous connaissez, car vous êtes ensuite passé de l'autre côté de la caméra, Vincent Fernandel,
oui,
pour réaliser des documentaires et des courts-métrages et des moyens-métrages.
Absolument.
Comment c'est venu, ça ?
Je vais vous dire ça. C'est-à-dire que j'ai plein de métiers, en fait. Je fais à la fois professeur d'art dramatique, de théâtre. Je fais également de la photographie. Je réalise, j'écris pour le théâtre et puis pour d'autres choses. Mais si vous voulez, il y a un moment donné où quand je choisis un médium ou l'autre, ça signifie que c'est grâce à ce médium que je peux m'exprimer pour cette chose-là. Très loin de me comparer à un type comme Cocteau ou un mec comme Pasolini, deux artistes que j'aime beaucoup, les deux disaient plus ou moins la même chose. Ils disaient, voilà, nous, on est des poètes, je n'en suis pas un, je vous rassure, et notre travail, c'est de chercher tous les médias, tous les médiums pour exprimer les choses qui ne peuvent s'exprimer parfois que par tel ou tel médium. Et c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec ce côté pluridisciplinaire de l'artiste ou de l'artisan, ou à un moment donné, si on a quelque chose à dire grâce à l'image, on le dit grâce à l'image. Grâce à l'écrit, c'est grâce à l'écrit, pour pas justement n'avoir qu'un seul cheval de bataille et se concentrer uniquement sur une seule chose. Mais les courts-métrages que j'ai faits, ils n'ont pas fait grand bruit. Le moyen-métrage que j'ai fait, j'en étais plutôt content, mais je pense que si je le revoyais, je serais un peu vert. C'est une adaptation, en fait, d'œuvre de Jean Racine, gardant l'Alexandrin.
C'était Les 12 abattements du cœur. Et pourquoi avoir adapté ? C'est pas facile d'adapter Jean Racine. Bon, il n'y a pas de droit d'auteur.
Vous savez que vous êtes le premier qui, sur une antenne publique, me parle des 12 abattements du cœur. Là, vraiment, je ne suis pas mécontent. Je n'ai pas perdu ma journée. Je ne pensais jamais qu'un journaliste m'en parlerait. Les 12 abattements du cœur, au départ, ça partait d'une idée toute simple. C'est que moi, j'adore Jean Racine. C'est un de mes auteurs préférés, Britannicus, c'est ma pièce préférée. Moi, je suis certain que Racine, s'il avait vécu aujourd'hui, il écrirait pour Netflix des séries formidables et qu'il ferait des bons films de cinéma. Et j'aime beaucoup Britannicus et je me suis dit un jour, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si on adaptait, sans changer le texte, qu'on adaptait donc le texte en alexandrin de Racine à l'image. Donc en fait, ce moyen-métrage, c'était un peu un test. C'est un semi-film, un semi-test. C'est un peu un côté un peu arty, un peu underground. Je crois que c'était beaucoup trop underground pour dépasser un certain seuil de célébrité. Mais on l'a jamais distribué. Il a été vu aussi par à peu près 400 personnes lors de la première. Enfin, la première qui a été aussi l'unique, d'ailleurs.
La dernière, oui.
Qui a été la dernière. Comme ça, on gagne du temps, c'est fait. Non, mais oui, j'ai... Mais c'était une belle tentative, et ça m'a permis, effectivement, de me tester sur le théâtre, corrélé au cinéma. Mais en fait, tout ça pour dire que je crois qu'en fait, je l'ai fait assez bien pour savoir que c'était pas vraiment une bonne idée.
Ouais. Des bonnes idées, vous en avez eu d'autres, on en parle dans quelques instants.
Il faut toujours des mauvaises pour contrebalancer les bonnes.
Exactement.
Hein. Et c'est par l'erreur qu'on apprend. Comme
exactement. Donc une autre date importante, 27 août 2019, on en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Vincent Fernandel.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vincent Fernandel. On a parlé de votre passé, de votre amour du cinéma, du théâtre. Et le théâtre, justement, depuis le 27 août, au Théâtre des Mathurins à 19h, il y a une pièce, Anna attend l'amour, qui est jouée par Elisa Ollier. Elisa Ollier qui a écrit cette pièce avec vous, Vincent Fernandel, et ce sont vos débuts d'auteur de théâtre.
Eh bien, c'est vrai que c'est la première fois, Jacques, que une de mes créations, parce que j'en ai fait plusieurs, mais à chaque fois ça jouait 3, 4, 5 dates, parce que le théâtre français est quand même en crise, hein, il faut le savoir, mais c'est effectivement la première fois qu'une de mes créations est mise aussi bien en valeur, non seulement par rapport au théâtre, qui est un lieu magnifique, le Théâtre des Mathurins, mais aussi et surtout parce que, et je ne sais pas si tous les auteurs disent ça dès qu'ils font une nouvelle chose, mais pour moi, c'est l'œuvre dont je suis le plus, pas fier, mais le plus heureux depuis que j'ai commencé dans ce métier. Parce que c'est d'abord une rencontre cohérente avec Elisa, qu'au départ à qui je donnais des, non pas des cours, mais que je préparais à des castings. Et on s'est aperçu très rapidement qu'on avait, elle et moi, le même univers artistique, ce qui est extrêmement rare. Et donc, on a commencé à écrire à deux ce spectacle qui, finalement, est né sur scène, alors que nous, en l'écrivant, on ne pensait même pas à est-ce que ça va marcher, etc. Mais quand je dis que c'est une œuvre dont je suis très heureux, c'est parce que c'est aussi le témoignage de la rencontre entre deux personnes, entre Elisa et moi. Et c'est ce que je dis souvent, c'est un bébé qu'on a fait sans jamais se toucher.
Oui. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui cherche l'amour dans toutes les directions sauf la bonne. Et à travers cette comédie noire, car on rit beaucoup mais c'est très noir, vous évoquez les familles toxiques.
Absolument. Avec Elisa, pour des raisons qui nous sont propres à chacun, on a pris comme socle la toxicité familiale. C'est-à-dire à quel point les problématiques familiales poussées à un certain niveau peuvent avoir des dommages absolument catastrophiques, voire parfois irréparable, sur les enfants qui sont issus de ces familles où ça manque d'amour, où ça manque de cohésion familiale, où ça manque de discernement, où il y a trop d'inconséquences pour qu'à un moment donné, tout ça se répare. Et avec Elisa, comme on ne voulait pas se censurer et qu'on voulait aller très loin, on s'est un petit peu inspiré de l'écriture et du ton qu'avaient ces formidables comédies italiennes des années 60-70 avec les Gasman, les Sordi, les Tognazzi, réalisés par les Monicelli, les Risi et tout le bazar, où justement ce cinéma-là prenait des sujets extrêmement cruels, voire parfois très très noirs. Je pense par exemple à Affre sale et méchant des Toresco là, sur les bidonvilles à Rome, mais qui arrivait pour faire passer l'horreur à détourner complètement le socle abominable pour en faire de la comédie noire. Parce qu'en fait, la comédie qu'on appelle la comédie à l'italienne, c'est en fait ça, c'est de la comédie noire. Hein, aujourd'hui, en France, on dit « Ah, l'humour noir, comme si on l'avait découvert depuis 10 ans », mais il existait bien avant nous. Encore une chose qu'on n'a pas créée, nous, voilà, les Français.
Hein. On a créé d'autres choses quand même, heureusement. Mais ça veut dire que vous avez beaucoup ri en écrivant ce spectacle, Vincent Fernandel, et vous faire rire, c'est pas si évident.
Oui, effectivement. Je suis pas très bon public. Déjà parce que quand on fait un métier artistique et qu'on voit beaucoup de films, qu'on voit beaucoup de pièces, etc., il y a toujours un moment où c'est plus l'œil du spécialiste hein, qui parle plus que celui du public. C'est comme si vous avez ici un psychanalyste, il va forcément vous analyser d'une manière différente à cause de son métier. Mais même si je ne suis pas très bon public, quand je suis emporté, je suis emporté. Et j'avoue que sur cette pièce, celle qui m'a emporté, c'est d'abord Elisa, parce que c'est une pièce qu'on a écrite sur mesure pour elle, pour sa nature, car c'est une comédienne, il faut bien le dire, qui ne rentre dans aucune case. Aujourd'hui, où on nous fait croire que le métier artistique, notamment chez les acteurs, il n'y a jamais eu autant de liberté, il y a la place pour tout le monde, c'est faux. Aujourd'hui, il faut correspondre à des standards qui sont aussi carrés et nets qu'une boîte de vache qui rit, quoi. C'est-à-dire, on rentre dans la boîte ou on ne rentre pas, ou on est en portion carrée ou trapézoïdale. C'est la dictature du standard dans le milieu artistique pour les acteurs. Et c'est justement, pardon, je vous coupe, et c'est justement pour ça qu'Elisa fait un succès très fort dans ce spectacle, parce qu'on a une femme qui ne fait pas que rire, mais qui aussi arrive à émouvoir et qui arrive à passer de la sensualité à la folie en un quart de seconde, dans un texte qu'on a voulu quand même un minimum intelligent, avec du fond.
Ouais, ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est un seul en scène, comme on dit aujourd'hui, mais en même temps, c'est un seul en scène qui est une pièce de théâtre. Et ça ne se fait jamais, Vincent Fernandel.
Alors, on parlait tout à l'heure des mots, hein, des mots qu'on emploie pour d'autres. On me dit, c'est un one-man show. Non, ce n'est pas des sketchs. C'est du stand-up. Non, ce n'est pas du stand-up. Ce n'est pas quelqu'un qui a un pied de micro, qui est mal sapé et qui fait des ânes au public au deuxième, troisième rang et on est ravi de se faire défoncer la gueule quand on a payé 30 balles sa place. Ce n'est pas ça. Non. Bah oui, il faut dire les choses. Il y a des gens talentueux dans le stand-up. Mais comme dans beaucoup de choses, il y a beaucoup de déchets aussi. Bref, avec Elisa, on a écrit un long monologue. C'est un monologue de théâtre. Voilà. Alors, dans les longs monologues de théâtre, il y a aussi beaucoup de singeries. Hein, c'est vrai, souvent, il y a ces pièces formidables où il y a un type qui, pendant 4 heures, fait « Yeah !» seul sur scène avec un sac plastique, avec une barre de fer. Oui. Et puis alors, c'est formidable, on se régale. On n'a rien compris, hein, mais c'est du grand art. Nous, oui. si vous voulez...
On a Libération même... en parle.
Voilà, mais nous, si vous voulez, c'est une... je dis ça parce que c'est une pièce où il n'y a pas de message. On ne s'est pas dit, ah, comment allons-nous faire passer un message? Comment allons-nous faire un peu de prosélytisme bobo parisien pour expliquer à tous ces gens qui ne comprennent rien ce qu'il faut penser grâce à nous? Non, nous, on ne pense rien. On raconte une histoire où les sens parfois sont assez ouverts et on laisse au spectateur le soin de remplir de sa propre histoire l'histoire qu'on lui propose. Car, comme disait Meyerhold, qui était un grand homme de théâtre russe, il y a le premier créateur qui est l'auteur, le second qui est le metteur en scène, le troisième qui est l'acteur, et le quatrième créateur, c'est le public. Ne jamais oublier une chose, c'est que le public, comme disait un autre très grand Billy Wilder, il vient pour être boxé, il vient pour être tenu en suspense, il vient pas pour écouter la diatribe moraliste d'un pseudo-artiste qui vous explique sous couvert d'eux qu'en fait, votre vie n'est pas bien et que la sienne est formidable. Alors, ça, c'est des bêtises.
Cette pièce, Anna, attend
l'amour. Je me casse la gueule, tout va bien. J'ai failli passer sous le bureau.
Voilà, c'est l'émotion. Voilà, cette pièce, attend l'amour, Anna attend l'amour, oui. Donc au Théâtre des Mathurins, Vincent Fernandel. C'est donc un sujet sur les familles toxiques et c'est un sujet universel puisqu'à la fin du spectacle, beaucoup de femmes ou d'hommes viennent voir votre comédienne Elisa Ollier pour vous dire qu'ils ont été touchés par le sujet.
Absolument. Et alors ça, je vous avoue que ça a été une grande surprise parce que quand on crée quelque chose, on a beau en être content ou être en doute, on se dit après c'est le public qui va le faire. Hein. Il n'y a pas de sûreté selon laquelle ça va marcher ou pas. Mais ce qui a été très étonnant, c'est qu'en fait, on s'est aperçu avec Elisa, et les gens viennent beaucoup voir Elisa, parce que c'est elle qui porte le bébé, hein, c'est elle qui est sur scène, et elle le porte très bien, viennent voir Elisa, ou moi, quand on sait à peu près que je suis le co-auteur et qui je suis, pour en fait nous faire des confidences. Et on se rend compte avec Elisa qu'il y a des gens qui nous racontent des choses, des pans de leur vie familiale, intime, comme si, soudain, on faisait partie de leur famille. Comme si, soudain, dans la pièce, à certains moments, on avait mis le doigt sans le vouloir sur des choses qu'ils ont peut-être, parfois, pu catharsiser, hein, et dont ils ont pu se rendre compte qu'ils n'étaient pas les seuls à les vivre. Et c'est ça qui est formidable quand on crée quelque chose. C'est pas le fait que la presse soit bonne et qu'il y ait beaucoup de monde, même si on est très content quand ça arrive, soyons pas hypocrites. Mais le mieux, c'est quand, à la sortie du théâtre, les gens viennent vous dire... Ce que vous avez fait, ça nous raconte quelque chose. Ce que vous avez fait, ça nous permet de nous détendre sur un passif un petit peu lourd ou sur une situation avec la famille qu'on vit qui est compliquée. Ça permet de nous prouver, c'est ce que m'a dit quelqu'un une fois, et ça je l'ai retenu, qui nous a dit à Elisa et à moi, cette pièce m'a fait rire et pendant que je riais, je me disais, je ne suis pas tout seul. Et ça, c'est joli.
Alors, le théâtre, vous l'aimez tellement, Vincent Fernandel, que vous avez créé des ateliers qui portent votre nom, oui. Où vous formez des élèves.
Absolument.
Ça, c'est important pour vous, la transmission.
Oui, parce que, comme vous l'avez justement dit dans votre introduction, moi, je suis un homme discret. Je suis un homme de l'ombre. Non pas que je me sente mal à l'aise en public. J'y ai toujours été à l'aise et puis j'aime bien venir discuter sympathiquement. Mais ma vraie place, elle est vraiment... à l'arrière, aux avant-postes. Moi, je suis une éminence grise. C'est-à-dire que je trouve que mettre des acteurs en valeur en écrivant pour eux ou en les formant, c'est ma juste place. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Est-ce que la célébrité me fait peur ? Peut-être, à la fois, si j'avais voulu être célèbre. Hein, souvent, on me dit, tu ne voudrais pas être célèbre. Si j'avais voulu être célèbre, je le serais déjà. Quand quelqu'un est mu par l'envie de célébrité, il fait tous les efforts pour. Moi, je voulais être un bon artisan et je voulais mettre les autres en valeur. Voilà. Parce que je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire bien. Parfois, je vais dedans, là, je vais peut-être remonter sur scène au théâtre en tant qu'acteur dans pas longtemps. Mais ça, pour moi, c'est des à côté, c'est récréatif. Pour moi, vraiment, la place dans laquelle je me sens bien et dans laquelle j'arrive à être à peu près utile dans ce monde où on est tous quand même plus ou moins inutiles, sauf si on se trouve une utilité, c'est de former les gens ou de les mettre en valeur ou de les pousser à se dépasser. Voilà.
Et la transmission familiale, ça existe aussi, vous l'avez démontré, à travers un texte lu par votre grand-père.
C'était le jour de mon arrivée ici. J'avais pris la diligence de Beaucaire, une bonne vieille patache...
Vincent Fernandel, là, vous relevez le défi. C'est-à-dire que Fernandel a enregistré les lettres de mon moulin, oui. Et vous les avez enregistrées aussi.
Oui, c'est vraiment ce qui nous lie, hein, mon grand-père, mon père Franck et puis moi, c'est que tous les trois, nous avons enregistré les lettres de mon moulin. J'ai enregistré les lettres il y a à peu près un an ou deux. Là, ça devrait sortir ainsi que les Fables de La Fontaine, figurez-vous, début 2020. Mais enfin, logiquement, je ne parle pas trop des choses tant que ce n'est pas signé, parce que je fais plein de trucs, mais je ne dis pas tout. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un régal. C'est-à-dire qu'en tant que méridional... qui vraiment adore la culture de son pays, de sa région, lire du Daudet, qu'on me demande de faire les lettres de mon moulin, en plus à la sauce un petit peu moderne, hein, avec les moyens d'aujourd'hui en termes de sound design, comme on dit, hein, avec des bruitages et des musiques plus élaborées, c'était formidable. Oui. Je me suis régalé, et d'ailleurs je souligne que celui qui m'a demandé de les enregistrer à mon tour, c'est Gérard Tempesti, qui était le producteur de mon père. Voilà, donc même là, il y a encore une donnée de transmission et une donnée familiale qui rentre en compte.
Et ce qui est drôle, c'est qu'Alphonse Daudet, avant d'être l'auteur qu'on connaît, a été le secrétaire du duc de Morny, qui lui a fondé Deauville. Vous voyez, donc un méridional a travaillé avec quelqu'un qui a fondé Deauville.
Ah, ça, je l'ignorais. Par contre, ce que je sais, c'est que les lettres de mon moulin, il les a écrites à Paris. Hein.
Exactement.
Ça, il faut le savoir. Hein. Il les a jamais écrites dans le Midi.
Mais jamais. Le moulin de Daudet n'a rien à voir avec les lettres de mon moulin. Alors maintenant, cette pièce est à l'affiche donc du mardi au samedi.
C'est les lundis et mardis.
Lundi et mardi.
Ça, c'était les deux premières semaines. Voilà. Et maintenant, on est passé au lundi mardi.
Lundi et mardi. Donc Anna attend l'amour au théâtre des Mathurins. Oui. Vous allez continuer maintenant à faire du théâtre, à écrire, Vincent Fernandez.
Alors, je vais vous donner un scoop, mon cher Jacques. Oui. C'est qu'avec Elisa, nous avons déjà enclenché un deuxième. Voilà. Pas un petit, hein, une pièce, parce qu'on s'est dit qu'on voulait continuer ensemble et parce que j'ai la chance d'avoir trouvé ma partenaire précieuse là-dessus. Et puis, il est question peut-être que, comme je vous le disais, que je remonte sur scène dans une pièce de Franck Lehen, hein, pour ne pas le citer, qui est un auteur parisien extrêmement connu, qui a fait beaucoup de succès, et avec Magali Madison, qui, pour ceux qui aimaient les séries de jeunesse du temps AB, vous avez, je crois, d'ailleurs un petit peu œuvré, mon cher Jacques, oui. Voilà Magali Madison, qui jouait dans pas mal de séries d'AB Productions, mais qu'on a aussi vu, et c'est vrai, on le signale rarement, dans des films de genre, dans des films un petit peu underground, dont un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle La fiancée de Dracula de Jean Rollin.
Voilà.
Elle est formidable, Magali Madison.
Pour l'instant, on va aller voir Anna attend l'amour au théâtre des Mathurins,
oui,
les lundis,
mardi,
19h, et vous reviendrez parler de tout ça sans problème dans Les Clés d'une Vie.
Ben, mon cher Jacques, je reviendrai avec le trousseau. Hein,
D'accord.
Vous prendrez la clé.
Merci Vincent Fernandez.
Merci,
dans quelques instants, Brigitte Lahaye. Nous, on se retrouve demain pour d'autres Clés d'une Vie. Bonne journée, merci, à demain.